Avoir raison avec Gilbert Simondon, une émission proposée par Guillaume Herner. Un aveu, la première fois que j'ai lu Gilbert Simondon du mode d'existence des objets techniques, j'ai eu un choc. Pour la première fois, un philosophe parlant de technique rendait intelligibles des phénomènes que j'avais sous les yeux. Un moteur automobile, voire un ordinateur relié à Internet, alors même que ce philosophe n'avait probablement jamais eu de relation avec un ordinateur relié à Internet, puisqu'à l'époque où il écrivait, dans les années 1960, la civilisation du numérique était encore dans les limbes. En lisant Simondon, j'ai eu l'impression d'avoir découvert un secret, peut-être le secret le mieux caché de la philosophie française, comme si un penseur essentiel existait sans que nous le sachions. Car l'une des spécificités de Simondon, pour moi, c'est d'être incontestablement un immense philosophe de la taille de Bachelard, de Canguilhem, et d'être presque entièrement un inconnu. Ensuite, après avoir découvert les travaux relatifs à la technique de Simondon, je me suis rendu compte qu'il s'était aussi penché sur l'individu, que sa notoriété croissait, qu'il y avait de plus en plus de penseurs, de philosophes, de sociologues qui utilisaient Simondon dans leur travail. Raison de plus pour découvrir aujourd'hui cet homme avec qui il est si agréable d'avoir raison, un philosophe de la technique qui n'est pas un anti-moderne, un grand penseur, voilà l'homme que vous allez avoir la chance de découvrir aujourd'hui.
La nature même de l'outil, c'est d'établir un rapport constant et non fallacieux entre le corps de l'opérateur et l'objet sur lequel il agit. Il y a une individualité, mais une individualité intérieurement consistante de l'objet même de l'outil.
Et pour parler de Gilbert Simondon, je suis en compagnie de Vincent Bontemps. Bonjour, vous êtes chercheur au CEA et vous avez notamment publié un livre qui est un ouvrage collectif puisqu'il est issu d'un colloque de Cerisy, Gilbert Simondon ou l'invention du futur chez Klingsic. Et à côté de vous, Jean-Yves Chateau, bonjour. Vous êtes inspecteur général honoraire de philosophie. On vous doit notamment le vocabulaire de Gilbert Simondon, publié chez Ellipse. Jean-Yves Chateau, pouvez-vous nous présenter cet homme qui est né le 2 octobre 1924 à Saint-Étienne et qui est mort le 7 février 1989 à Palaiseau?
Très simplement, entre ces deux dates, on peut dire qu'il est rentré à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il a réussi l'agrégation de philosophie en 1948. Il a soutenu sa thèse de philosophie en 1958. L'une s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques » et l'autre s'appelle « L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information ». Il a été professeur au lycée Descartes de Tours. C'était son premier poste au sortir de l'école normale en 1949-50, je ne sais plus exactement. Il est devenu très vite assistant, puis maître de conférence, puis professeur à Poitiers en philosophie-psychologie. À Poitiers, à l'époque, ce n'était pas distinct. Et puis, en 1963, il a été nommé à Paris comme professeur de psychologie, responsable du département de psychologie. Voilà, disons, résumé de manière extrêmement simple et indépendamment de toute la riche histoire de sa pensée. Mais ça, c'est une autre affaire, ce à quoi on peut le ramener.
Qu'est-ce qui a conduit Gilbert Simondon à étudier la philosophie? Son père était employé des postes, sa mère était issue d'une famille d'agriculteurs, Jean-Yves Chateau.
Eh bien, c'est d'abord des qualités intellectuelles absolument indiscutables. J'ai lu un bout de lettre de lui assez tardivement, c'était après l'agrégation. Il se plaignait que dans ses études, auxquelles il a toujours été extrêmement attaché, il n'avait pas pu mener sur un pied d'égalité des études scientifiques approfondies et des études littéraires. Alors, il est rentré parce qu'on lui a dit « Mais tu es très bon, vous êtes très bon » en lettres, il a fait sa cagne à Lyon avec Jean Lacroix, célèbre professeur de philosophie, qui était par ailleurs le feuilletoniste du Monde pendant des années et des années. Et bon, on lui a dit, il faut faire des lettres. Mais lui, il aurait bien aimé faire une taupe et faire des études de sciences. Et quand il est rentré à l'école normale, il a passé beaucoup de temps, l'essentiel, à étudier la technologie et la biologie, passer des certificats comme ça se faisait. Voilà.
C'est très rare quand même, cet homme qui a en quelque sorte ces deux versants, donc à la fois homme de lettres et homme de science, et puis aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, un manuel, parce que il enseignait la technologie dans le lycée où il a débuté sa carrière d'enseignant, donc on imagine qu'il savait se servir de ses mains, cet homme.
Tout à fait. Et plus que de ses mains, de l'intelligence manuelle, ce qui est encore bien autre chose que l'habileté simplement et des doigts. C'était un fabricant, un fabricateur, un réalisateur. Il aimait démonter, il aimait remonter, il aimait utiliser les outils agricoles. Il est d'une région agricole et il a un grand intérêt pour le début du machinisme agricole dans une région qui n'était pas spécialement tournée vers ça à l'époque.
Laquelle ?
Eh bien, du côté de Saint-Étienne.
J'ai d'ailleurs eu l'occasion de visiter sa maison de vacances au Chambon-sur-Lignon. Et il avait une sorte de petit cabanon où il écrivait et puis il avait relié les deux.
Si vous permettez, c'est pas vraiment au Chambon-sur-Lignon, c'est juste à côté, c'est à Tens. Où il avait effectivement la maison de famille, qui est toujours la famille, et il avait effectivement, vous connaissez donc, ce petit cabanon dans les bois, et où il pouvait travailler l'été tranquillement.
On dit que la fin de sa vie a été, je cite, « assombrie par la souffrance psychique ».
Oui, certainement, il a été en congé de maladie à la fin de sa vie, oui. Il y a ceux qui pensent en philosophie que ce sont les affects qui sont déterminants des pensées, je pense pas que ce soit une manière de faire l'éloge de la philosophie. Il y a ceux qui philosophent malgré les souffrances, les difficultés qui peuvent être de toute nature et que la plupart des hommes connaissent, malheureusement. Et je pense qu'il a essayé de faire son affaire et d'affronter cela comme il a pu.
Il y a un mystère, Simondon Vincent Bontemps, parce que donc ces éléments biographiques montrent la richesse de sa pensée. Et il a travaillé avec les plus grands, puisque il a soutenu sa thèse avec Georges Canguilhem. Comment cela se fait-il qu'il ait fallu tant de temps pour que cette pensée, pour que cet homme devienne moins inconnu, puisqu'on ne peut pas encore dire qu'il est connu, même si vous allez y contribuer tous les deux?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est que les publications ont mis du temps à intervenir. Donc, il a soutenu ses deux thèses, comme l'a rappelé Jean-Yves Château, et seule la thèse mineure, c'est-à-dire du mode d'existence des objets techniques, a été publiée dans la foulée. Alors, elle a eu un certain retentissement, et d'ailleurs, j'en dirai un mot, elle a eu un retentissement au-delà de la philosophie. Mais elle a installé l'idée, peut-être, que Gilbert Simondon n'avait la stature que d'un philosophe des techniques. Alors, par n'importe lequel, probablement le meilleur philosophe des techniques, ça ne fait pas de doute, mais tout de même, c'était réducteur par rapport à l'ampleur de son travail. Et donc, il a fallu patienter 10 années avant qu'une partie seulement de la thèse principale soit publiée. Voyez. Et donc, même si quelques grands esprits comme Marcus pour ce qui est de la thèse donc mineure sur la technique, ou Deleuze pour ce qui est de cette partie de la thèse principale, hein, qui était l'individu et sa genèse physico-biologique. À l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est passé plus inaperçu que ça n'aurait dû. La deuxième chose que je dirais, c'est que il a fait sa carrière, Jean-Yves Château vient de le rappeler, principalement en fait en tant que professeur de psychologie. Et donc il y a quelque chose qui décale aussi sa trajectoire par rapport à la réception qui aurait pu être celle d'un philosophe majeur du XXe siècle. Hein. Donc qui plus est, il l'a fait en voulant refonder la psychologie à un moment donné où elle se professionnalisait dans une direction sans doute différente et plus réduite. Et puis la dernière chose, c'est que c'est un penseur immensément original. Vous avez évoqué le choc que vous avez eu en lisant Simondon. Je peux témoigner de la même chose. La première fois qu'on lit du mode d'existence des objets techniques, on est totalement suffoqué de rencontrer quelqu'un qui est capable de penser la technique, non pas d'appliquer un système préformé, je veux dire, à une question, mais de prendre pour une expérience de pensée authentique le fonctionnement des objets techniques. Et ça le mettait à côté de tous les grands courants philosophiques qui dominaient la scène de l'époque. Simplement, ce qu'on peut constater, c'est que l'existentialisme, le structuralisme, le marxisme de cette époque, tous ces courants ont disparu, alors que Simondon, de jour en jour, s'impose comme étant le penseur qui a anticipé la plupart des grands enjeux de notre temps.
Jean-Yves Château.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Vincent Bontemps vient de dire. Il me semble quand même, si vous permettez, et ça c'est un peu du fait de mon âge, très précisément, qu'en fait, il a eu beaucoup plus de succès sur le moment même de sa thèse qu'on ne se l'est dit 10-15 ans après. Pour preuve, Je me souviens que moi, quand j'étais en classe terminale, qui s'appelait de philosophie à l'époque, mon professeur, Bernard Rousset, qui était un paria, qui a fait une thèse sur Kant, tout à fait remarqué, qui est devenu professeur d'université, nous avait parlé du mode existant des objets techniques, alors que ça venait de sortir 3-4 ans auparavant. Que ensuite, faisant mes études, Jean Toussaint de Santy, éminent professeur également, nous a fait une leçon d'agrégation sur les objets techniques. Donc, à vrai dire, il était extrêmement reconnu. Il a fait une carrière fulgurante, précisément un peu pour ces raisons. Voilà, donc sur le moment, il y a tout de suite eu un grand succès, même si c'est effectivement surtout dans la partie technique, alors que, évidemment, c'était un penseur immense par ailleurs.
Alors cette partie technique, justement, ce cours que vous avez eu, ou plus généralement Jean-Yves Chateau, s'il fallait exposer, quelle est l'originalité de la pensée de Simondon sur la technique ?
C'est difficile de répondre en quelques mots. On peut dire que, et c'est une manière de sortir un peu de la question et de répondre peut-être à celle qui va venir aussi, c'est que ce qui est le plus original et le plus percutant dans son analyse de la technique, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans son analyse de l'individuation. Je pense, moi, effectivement, qu'il y a une profonde unité, bien plus grande qu'en général on se l'imagine, et bien plus grande que la division, par exemple, en deux thèses, c'est-à-dire ces deux ouvrages principaux, le laisse supposer. Alors, ce qui est fondamental, c'est un point de vue qu'il appelle lui-même génétique, c'est-à-dire que ce qu'on appellera vulgairement le temps, le devenir, la transformation de toute chose, le fait que toute chose doit advenir, elle doit naître pour ensuite continuer à se développer sans arrêt, c'est quelque chose qui caractérise l'être en général, la réalité en général telle qu'il la développe, et la réalité physique, la réalité biologique, la réalité aussi bien humaine, individuelle et collective, mais c'est également ce qui caractérise l'objet technique. L'objet technique, il advient, et pas simplement parce qu'il est fabriqué un jour, mais parce que il advient conformément à une idée, un projet, et ça ne cesse de se développer, de se relier avec quantité d'autres objets.
Nous continuons à tenter de saisir l'originalité de la pensée du philosophe Gilbert Simondon, qui est né donc en 1924, et nous a quitté en 1989. Nous sommes en compagnie de Jean-Yves Chateau, inspecteur général de philosophie, qui a publié un ouvrage consacré au vocabulaire de Gilbert Simondon, et de Vincent Bontemps, chercheur au CEA. Vous avez publié le collectif de Cerisy consacré à Simondon et au futur chez Klingsic. Vincent Bontemps.
Pour rebondir ce qui vient d'être dit par Jean-Yves Chateau, en général, dans notre rapport aux objets techniques, nous avons un rapport utilitaire, c'est-à-dire que nous définissons les objets par leur fonction, le service qu'ils nous rendent. Et ce rapport est, on va dire, inadéquat. Il désigne la finalité que nous attribuons aux objets techniques, non pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils font pour nous. Et il y a, chez Gilbert Simondon, cette conversion de l'intelligence qui est de définir les objets techniques par ce qu'ils sont, ce qu'ils font en eux-mêmes, c'est-à-dire par leur fonctionnement. Pas par leur fonction, mais par leur fonctionnement. Pour donner l'exemple type de Gilbert Simondon, quand nous parlons de moteur, le mot même veut dire que nous parlons de toutes les choses qui mettent en mouvement. Mais entre un moteur à explosion, un moteur électrique ou un moteur à ressort même, en fait, il n'y a pas de communauté technologique. Pour définir l'identité technique d'un moteur à ressort, quelque chose qui va compresser et puis ensuite libérer de l'énergie mécanique, eh bien, on est bien plus dans la famille qui regrouperait aussi l'arbalète, voilà, que du côté du moteur à combustion interne. Et donc, il y a chez Gilbert Simondon une pensée donc génétique qui retrace les lignées techniques. C'est quelque chose auquel je suis très sensible parce qu'en fait, je mets ça en œuvre moi dans mon travail. Je suis pas tellement un commentateur de Simondon, je suis plutôt un utilisateur.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh ben, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a beaucoup de domaines. Moi, c'est au départ les instruments phénoménotechniques, dirait Bachelard, c'est-à-dire les instruments scientifiques qui permettent d'observer la nature. Et je regarde l'évolution de ces instruments. Et donc, ce que Simondon recommande, c'est quand on regarde un objet technique, on regarde les différentes générations dans le temps, depuis l'invention de départ, qu'il appelle un objet abstrait, jusqu'à les derniers modèles qu'il trouve beaucoup plus concret.
Abstrait, concret, qu'est-ce que ça veut dire chez Simondon ?
Le processus de concrétisation, Jean-Yves Château me corrigera si jamais je dévie, mais le processus de concrétisation désigne finalement un gain récurrent de synergie interne de l'objet. C'est-à-dire qu'on commence par former un objet, généralement comme un rassemblement d'éléments, d'outils qu'on met ensemble, qui est un fonctionnement abstrait en ce sens que chacun des outils a une fonction sans tenir compte finalement des autres. Et on finit dans les dernières générations, après de multiples réinventions de l'organisation de l'objet, par quelque chose où tout est lié presque comme l'est un organisme vivant. Tout fait sens ensemble.
Ça veut dire, Jean-Yves Château, qu'il y a quasiment une vision, je ne sais pas comment dire, évolutionniste de l'objet technique chez Simondon ?
Oui, on peut dire les choses ainsi. L'évolution, la genèse, qu'il appelle la genèse, est quelque chose de fondamental. Il dit, l'être est genèse, l'être de l'objet technique. L'objet technique, d'ailleurs, n'est pas, il faut le dire, tel ou tel objet technique singulier, comme il dit, donné I4-9, c'est-à-dire ici et maintenant. Par exemple, cette bouteille que je prends à la main, ce micro, etc. C'est pas ça. C'est, d'une certaine manière, l'idée de bouteille, l'idée de récipient, l'idée de micro, alors qui peut s'affiner, donc les idées peuvent être de plus en plus précises, et ensuite il peut y avoir une genèse à partir de cette idée, d'une série d'objets de la même famille, comme donc là, le terme de famille, hein, d'essence encore, de manière très curieuse pour les philosophes modernes, c'est un vieux terme platonicien, mais qu'il réutilise ici. Il y a des familles d'objets, et c'est cela qu'il étudie.
Mais ça veut dire, Jean-Yves Château, que pour Simondon, les objets techniques ont une forme de vie. Ça veut dire aussi qu'ils appartiennent à notre vie, c'est-à-dire qu'il dit en quelque sorte que l'étude des cultures a le devoir de s'intéresser aux objets techniques.
Oui, si vous permettez, il faut bien préciser, ils ont une forme de vie, ça veut dire que ce n'est pas une vie. Et il le souligne sans arrêt. C'est comme si c'était une vie, il y a quelque chose de quasi-organique, comme Vincent Montand l'a fort bien dit tout à l'heure. Mais justement, il faut bien voir que ce n'est pas une vie, c'est autre chose. Et il ne cesse, chapitre après chapitre, de faire la distinction. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que d'un côté, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vie et tout ce qui est vie des utilisateurs sont embarqués. Mais comme l'a dit Vincent Montand tout à l'heure, en même temps, ce n'est pas ça l'essence de l'objet technique. C'est pas ça le fond, la nature même de l'objet technique comme lui-même qui a, alors reprenons, une sorte de vie aussi. Il se développe en fonction d'une certaine logique. On peut pas faire absolument n'importe quoi pour réaliser simplement une finalité quelconque.
Vincent Montand.
Par rapport à la question que vous avez posée, c'est sans doute l'intention directrice de Simondon que de réhabiliter la valeur culturelle des objets techniques. C'est l'engagement le plus récurrent que l'on trouve dans ses écrits. Ce qui signifie quoi ? Ça signifie que en général, il y a une forme de mépris social à l'égard de l'objet technique, finalement, dans toutes les civilisations, qui commence dès la naissance de la philosophie avec des civilisations qui étaient finalement esclavagistes et qui réservaient donc une grande partie des activités techniques manuelles à des gens qui étaient jugés indignes de participer à la cité. Et donc, cette espèce de dévaluation de la technique qui est finalement ce dont on ne parle pas à table, hein. Je veux dire, l'ingénieur, c'est l'intellectuel qui garde les choses pour lui. Votre petit-neveu a le droit de parler de la pièce de théâtre de Molière qu'il a jouée en troisième, mais votre tante qui travaille chez Airbus et qui a commencé à designer une turbine pour le nouvel avion, elle, si elle en parle, on va dire « Ah, tais-toi, c'est ennuyeux », des choses comme ça. Vous voyez, la technique est sans cesse passée sous la culture. Et les objets techniques eux-mêmes semblent être affectés d'un complexe d'infériorité. Ils se cachent, ils cachent qui ils sont, ils cachent leur fonctionnement. Ils ont des coques. On ne laisse apparaître que finalement une couche socialisée qui est l'interface avec laquelle on fonctionne, mais leur fonctionnement, on le dissimule le plus souvent. Et donc, Simondon dit que c'est extrêmement préjudiciable. C'est pas simplement stupide, mais c'est très dangereux, ça.
France Culture, Avoir raison avec Gilbert Simondon, par Guillaume Erner.
Au point de départ, j'ai été sensible à une espèce d'injustice dont notre civilisation s'est rendue coupable envers les réalités techniques. On parle d'objets esthétiques, on parle d'objets sacrés, mais n'y a-t-il pas des objets techniques ? J'ai voulu employer la même expression parce qu'il m'a semblé que cette symétrie pourrait attirer l'attention sur une lacune. Si on laisse de côté cet aspect initial, qui est plutôt une motivation qu'une raison, je crois qu'on pourrait dire que objet technique doit s'entendre en deux sens. est objet ce qui est relativement détachable, comme ce microphone, comme une pièce qu'on peut vraiment emporter avec soi, ce qui suppose qu'elle soit de dimension manipulable et correspondant aux forces du corps humain. D'autre part, est objet aussi ce qui, dans l'histoire, peut être perdu, abandonné, retrouvé, en somme, ce qui a une certaine autonomie, une destinée individuelle. Quand l'industrie produit des objets, qu'elle les lance sur le marché, après elle se désintéresse d'eux et ils ont leur existence toute personnelle. En somme, ce sont comme des organismes, bien qu'ils ne soient pas vivants. Voilà pourquoi on peut parler d'objet.
Une définition de l'objet technique donnée par Gilbert Simondon dans un entretien à Jacques Dehan. C'était en 1967, Jean-Yves Chateau. On voit donc un intérêt particulier et un intérêt qui également s'accompagne d'une connaissance intime de l'objet technique chez Simondon.
Oui. C'est ce qui caractérise Simondon. C'est l'idée que, au lieu de parler comme un certain nombre de philosophes l'ont fait depuis la naissance de la philosophie, en tout cas, depuis Platon, Aristote et jusqu'à nos jours, parlant de technique en essayant de prendre un point de vue aussi surplombant que possible, englobant, ce qui fait qu'on risque de confondre d'ailleurs, du coup, la technique avec, certains vont jusqu'à la confondre avec la métaphysique en disant que, bon, Gilbert Simondon pense que c'est à partir de l'objet. Ce n'est pas que l'objet. Il n'y a pas un attachement limitatif à l'objet. Mais quand on ne parle pas de l'objet, quand on ne parle pas d'un objet, alors on ne parle pas de technique. La technique, la pensée de la technique, quoi qu'on en dise, doit véritablement se hanter sur la réflexion sur l'objet. Alors, ce qui est remarquable dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'il souligne le fait que, d'une certaine manière, l'objet, il rentre dans l'histoire. Il est donc lié à des filiations, à des familles d'objets et donc au développement d'objets. Et en même temps, l'objet technique, il est individuel. L'objet technique est indissociable d'une essence, d'une idée de l'objet et de la manière dont il va se développer. Et pourtant, ce n'est pas une idée vague, ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une idée généralisante, c'est une idée individualisée. C'est en tout cas ce qu'il a essayé de montrer.
Oui,
Vincent Bontemps.
Il y a en effet plusieurs points de vue à adopter si on veut commencer à comprendre l'objet technique. C'est-à-dire, il y a ce point de vue qu'on peut dire technologique ou, pour utiliser une expression de Simondon, mécanologique. C'est-à-dire le point de vue où nous regardons les objets pour ce qu'ils sont de façon un peu internaliste, du point de vue de la technique. Mais Simondon n'ignore pas du tout aussi que les objets techniques ont une identité sociale et culturelle, une fois qu'ils sont en évolution parmi nous. Et donc il y a aussi des études chez lui qu'il appelle de psychosociologie de la technicité, où il examine par exemple ce qu'il appelle le halo. Il dit que les objets techniques circulent parmi nous en étant comme entourés d'un halo d'images, de motivations. C'est-à-dire que l'objet technique, c'est pas que de l'information, c'est aussi des émotions, c'est des valeurs, et que d'une certaine manière, on fait du mal aussi à l'objet technique quand on le livre simplement à la publicité, vous voyez, qui va dire des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qu'est l'objet technique, qui va le vendre en y associant des images extérieures de réussite, de sexualité, que sais-je, mais qui ne va pas nous aider à percevoir quelle est son identité. Et donc, il y a plusieurs points de vue comme ça. Le troisième que je rajouterais, c'est un point de vue éthique. C'est-à-dire que respecter l'objet technique, respecter la technique en lui, c'est aussi quelque chose qui est immensément important dans notre société actuelle, dans la mesure où ça devrait nous conduire à en finir avec un consumérisme effréné et avec la destruction des forces naturelles. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas cet effort de réaliser que détruire des objets est mauvais, que c'est le mal, voilà, nous n'arriverons pas à stabiliser notre rapport dans la nature.
Jean-Yves Chateau.
Je voudrais prolonger ce que vient de dire Vincent Bontemps, fort justement. Il dit les choses d'une manière assez amusante dans un texte qu'on a publié récemment, mais qui a été écrit il y a longtemps. Il dit, en matière de morale, je fais pas toute une morale là-dedans, mais si déjà on se comportait à l'égard des êtres humains aussi bien qu'on devrait se comporter à l'égard des objets techniques, il y aurait déjà certainement beaucoup de progrès. Je voudrais simplement rajouter quand même une précision par rapport à ce que j'ai dit juste précédemment. La technique, la technologie, la mécanologie doit partir des objets. Sinon, c'est pas bon. Mais cela ne veut pas dire... Alors, certains ont surévalué, n'ayant lu sans doute que le début du mode d'existence des objets techniques, et ont dit, c'est une philosophie de l'objet, il refuse toute conception de la technique grandiose. Mais pas du tout. Toute la troisième partie, qui fait en gros la moitié du volume, consiste à étudier la technique dans ses relations avec toutes les autres grandes formes de la culture. Il commence par la magie, donc vous voyez, il remonte loin, la religion, mais également la morale, et la politique, la science, la technique et la philosophie. Donc il y a une conception dans le mode d'existence des objets techniques très générale. Il faut partir des objets techniques, sinon c'est pas sérieux ce qu'on dit sur la technique, et en partir précisément dans le détail, en les connaissant extrêmement bien et selon la genèse famille par famille. Mais ensuite, naturellement, il dit au début de la troisième partie, cela n'est pas suffisant pour connaître la technique. On ne peut pas, comme il dit, par simple induction à partir des objets techniques, découvrir l'essence de la technique. Il faut l'étudier pour elle-même philosophiquement, dit-il.
Et alors, lorsque je dis qu'il connaît intimement les objets techniques, Vincent Montand, ça veut dire qu'il y a des schémas de moteurs, de pistons, de culasses, des choses comme ça. Et chez Simondon, comment il étudie un moteur concrètement?
Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup poser de problèmes parce que Simondon nous fournit d'excellentes analyses et aussi des planches qu'il a lui-même constituées où on voit les différents modèles, par exemple des tubes à électrons en train d'évoluer dans le temps. Mais il n'y a pas chez lui d'indication sur la méthodologie qu'il emploie pour obtenir ces formidables analyses. Et donc comme moi j'avais depuis maintenant une quinzaine d'années l'objectif d'opérationnaliser une partie de ce qu'il fait, j'ai été obligé de me poser la question de maintenant comment, non pas peut-être lui-même, procédait-il, parce que je pense qu'il y a une partie qui vient tout simplement d'un engagement que vous avez vous-même souligné, son intimité avec un certain nombre de domaines. Donc voilà, il démontait lui-même et remontait lui-même des moteurs, tout simplement. Voilà, donc il y a comme ça un contact direct. Mais je me suis demandé, et en fait, ce qu'il appelle le schème technique, ce qui nous donne la clé du fonctionnement et de l'évolution des objets techniques, des lignées, c'est quelque chose où j'ai fini par développer, mais en regardant des gens qui sont dans la poursuite de Simondon, parce que l'un des élèves de Simondon, c'était Yves Desforges, qui a enseigné à l'université de technologie de Compiègne pendant des années. Et une des personnes qui a été influencée par ça, eh ben, il se trouve que c'est Jean-Louis Hermine qui a développé les méthodes de gestion des connaissances pour le CEA plus tard. Et donc, j'ai fini par récupérer des instruments qui sont des diagrammes. Il me semble que pour comprendre ce que c'est qu'une lignée technique, on est obligé d'interroger les gens, d'interroger les documents et ensuite de dessiner un certain nombre de diagrammes pour fixer l'opération qui caractérise cet objet et ensuite dessiner les différentes générations et les embranchements. Donc, voilà ma réponse. C'est, en fait, je crois bien qu'il y a une méthode opératoire dans le, c'est pas simplement un discours philosophique, vous voyez, même pas de surplomb, mais même pas un truc. C'est, il y a quelque chose d'opératoire dans la philosophie de Simondon. Il n'en a pas toujours donné le secret.
Jean-Yves Château.
Oui, je dirais assez volontiers, comme a commencé par le dire Vincent Montand, que on peut être effectivement perplexe. Je crois que ça correspond quand même à une profonde réalité de sa manière de faire. Au fond, il cherche comment ça fonctionne et il n'a pas ce qu'on appellerait de nos jours une méthodologie trop fermée, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à toutes les manières possibles de l'envisager, en particulier avec des objets qui fonctionnent d'une manière inédite. Les ordinateurs, les micro-ordinateurs à une époque, bon, c'était dans les années 80, c'était quelque chose de très nouveau. Il a fallu étudier la manière dont on pouvait décrire leur fonctionnement. Mais chez Simondon, il y a l'idée que il n'y a pas de méthode pour inventer. Il n'y a pas de méthode pour inventer des objets nouveaux. Il n'y a sans doute pas non plus de méthode toute écrite pour savoir comment on les analyse. C'est un travail, c'est une recréation de l'objet. Et je pense qu'il pensait profondément que comprendre un objet, c'est réellement le recréer. Et donc, c'est être aussi un peu son inventeur.
Je fais quand même argumenter, c'est que on voit qu'il converge avec des pensées, avec d'autres penseurs qu'il n'a pas connus. C'est quand même ça qui me fait croire qu'il y a quelque chose à essayer d'opérationnaliser, parce que, par exemple, il retrouve naturellement dans son livre de 58, dans Du mode d'existence d'objets techniques, il retrouve un certain nombre des analyses que Jacques Lafitte avait développées dans les années 30, et plus tard, quand il découvrira en 68, je crois, les analyses de Lafitte, il les réintégrera sans problème. Et il y a aussi une grande proximité avec des gens, si vous voulez, qui travaille comme le technologue soviétique Altshuler, qui travaille à la même période. Ce qui me fait dire qu'en fait, l'objet technique impose un certain nombre quand même de concepts. C'est pas arbitraire du tout, la philosophie de Simondon. Et donc, il n'y a pas de grande surprise au fait qu'il y ait beaucoup de penseurs qui aient convergé autour de la technique, notamment voilà, ceux que j'ai cités, Simondon, Lafitte, Altshuler.
Avoir raison avec Gilbert Simondon. Nous sommes en compagnie d'un inspecteur général honoraire de philosophie, Jean-Yves Chateau, et d'un chercheur au CEA, Vincent Bontemps. Jean-Yves Chateau, peut-être, puisque vous avez publié le vocabulaire de Gilbert Simondon chez Ellipse, nous expliquer quelles sont les caractéristiques de ce vocabulaire. Alors, on trouve des mots qui sont à la lettre A, par exemple, on trouve allagmatique. Qu'est-ce que ça signifie ?
Allagmatique, c'est un mot qui vient du grec, et Gilbert Simondon, il faut le dire, bien que ce soit un des plus grands philosophes de la technique, c'était un amoureux de la langue grecque et de la philosophie grecque qu'il connaissait admirablement. Il avait fait son mémoire de philosophie sur la philosophie précédant même Socrate. Alors, allagmatique, l'idée d'allagma, c'est l'idée de l'échange, quelque chose qu'on échange. L'idée que Simondon veut développer, je simplifie beaucoup, mais c'est l'idée que l'objet technique, il est allagmatique, ça veut dire que il est fondé sur un échange avec ce qui n'est pas lui-même. C'est une idée très importante finalement, car il y a eu des gens qui étonnés au moment de la publication du mode d'existence des objets techniques en 58, étonnés par la nouveauté de ce qui était dit, ont pensé que c'était une philosophie de l'objet, c'est-à-dire ennemi de ce qui n'était pas objet, que c'était une manière de réduire la technique à l'objet et de réduire l'objet à être quelque chose qui n'était pas, comme on a dit tout à l'heure, ce qui s'utilisait. Comme si on avait pu, quand on est technologue, se dire que un outil, un moteur, une bêche, n'importe quoi, ça ne sert à rien. Bien sûr que non, c'est pas ça qu'il veut dire. Et au contraire, on voit dans une série de textes, dont ceux où l'utilisation du thème de l'allagmatique sont développés, que un objet technique est toujours en relation avec d'autres. Alors, il est simplement en relation de plusieurs manières. Celle que tout le monde a reconnue, c'est-à-dire on s'en sert pour travailler, que ce soit une bêche, un ordinateur ou n'importe quoi, on s'en sert souvent pour faire quelque chose. Mais la manière dont une bêche fonctionne, ce n'est pas lié à l'intention de s'en servir. La manière dont un ordinateur fonctionne, ce n'est pas simplement l'idée qu'on a envie de s'en servir, c'est pas son utilité. C'est la manière extraordinairement complexe dont il est construit. Alors, donc, un objet technique est allagmatique au sens où il est en relation avec lui-même, il est en relation avec d'autres objets, et il est en relation avec la manière dont un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs s'en sert. Je résume très simplement, mais au fond, c'est ça. C'est l'idée, donc, d'échange.
Vincent Bouton.
Jean-Yves Chateau, maintenant, nous amène sur ce qui est au cœur de la pensée de Simondon en général, pas simplement avec la technique, c'est la relation. C'est-à-dire, la pensée de Simondon est vraiment fondamentale dans la philosophie française et en général la philosophie occidentale, parce que il a opéré un renversement entre l'individu et la relation. C'est-à-dire, ce qui existe, la réalité, c'est quelque chose qui est fondé sur un réalisme des relations.
Vincent Bontemps, et je vous pose une question abrupte, quel est le lien entre la relation et un moteur, par exemple?
Tout, l'individuation physique, l'individuation biologique, l'individuation psychosociale et même donc la concrétisation qui en est l'analogue pour les objets techniques. Ce qui est fabuleux avec Gilbert Simondon, c'est qu'il arrive à résoudre un certain des nombres des problèmes qui étaient posés, on va dire, aux métaphysiques classiques qui avaient une ontologie qui était faite de substances, de choses qui sont ce qu'elles sont, et qui voulait composer la réalité comme ça, en mettant d'abord les substances et en mettant les relations ensuite entre ces êtres. Simondon nous dit non, pas du tout. Il faut comprendre les êtres, les individus qui apparaissent à partir du processus d'individuation, donc dans une dynamique processuelle, et parce que ce qui existe en premier, finalement, c'est ce réseau des relations qui les accueille et dans lesquelles ils se stabilisent. Et donc, il y a quelque chose qui est assez formidable parce que, j'ai un peu étudié la question, ça permet par exemple d'avoir une vision réaliste, mais donc non substantialiste, de disciplines comme la mécanique quantique, qui se refuse...
Qu'est-ce que ça veut dire, oulala ?
Ça veut dire que...
La mécanique réaliste et pas substantialiste.
Eh ben, ça veut dire que vous pensez que quelque chose existe en dehors de votre pensée, vous n'êtes pas conduit à être enfermé dans votre pensée, il y a cet aspect réaliste, mais d'autre part, vous n'êtes pas obligé de présupposer que toute la réalité se décompose en entités, en êtres qui ne sont que ce qu'ils sont. Donc le réalisme des relations avec cette autre hypothèse de Simondon qu'on appelle le pré-individuel, qui est quelque chose qui est une phase fondamentale de l'être, qui est plus qu'unité et plus qu'identité, ce sont deux choses qui débloquent la situation, on va dire, de la pensée philosophique par rapport aux enjeux de ce que soulève la science du XXe siècle, en particulier la mécanique quantique.
Jean-Yves Château.
Je voulais simplement revenir pour que on ne donne pas le sentiment qu'il y a le moins de mystère sur moteur et relation. En deux mots, un moteur, c'est utilisé pour faire quelque chose, généralement pour se déplacer, des choses comme ça, tirer quelque chose. C'est utilisé dans un régime d'utilisation, mais c'est aussi quelque chose qui est en rapport avec lui-même. Un moteur, ça tourne, un moteur, ça fonctionne. L'idée de fonctionnement qui est fondamentale à la technologie de Simondon, c'est cela. Un objet est technique quand il fonctionne, c'est-à-dire lorsque les parties dont il est composé, ou une part des parties dont il est composé entre dans une relation avec elles-mêmes qui fait changer le rapport qu'elles ont entre elles, puis le retrouver de manière cyclique. Donc vous voyez, l'idée même d'un moteur, mais l'idée en général de tout objet technique, en tout cas pour Simondon, c'est cette idée d'un cycle, d'un retour, d'une variation par rapport à soi-même qui repasse par les mêmes phases.
Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'objets techniques, on se dit qu'on n'a pas nécessairement affaire à un ami, parce qu'on pense bien entendu à l'écologie et aux questions qui sont posées par elle. Est-ce que c'est une question qui traverse l'œuvre de Simondon ?
Oui, tout à fait. J'en ai dit juste un mot, mais moi je conseille à tout le monde de lire au moins dans sa vie une fois les introductions des deux thèses de Gilbert Simondon. C'est-à-dire, je considère que les problèmes que j'ai évoqués à propos du réalisme des relations sont fondamentaux et se trouvent magnifiquement exposés dans l'introduction de l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Et je trouve que les enjeux de la technologie sur lesquels vous m'amenez maintenant, sont aussi magnifiquement exposés dans l'introduction du mode d'existence d'objets techniques. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve une définition de la machine très particulière. C'est-à-dire que pour Simondon, la machine, c'est le seul allié de l'humanité pour rester en vie un peu plus longtemps sur cette planète. C'est-à-dire, il le dit, la machine est comme la vie et avec la vie, ce qui peut ralentir la dégradation de l'énergie, ce qui peut ralentir l'entropie. C'est la seule chose dont nous disposons pour préserver finalement les forces naturelles. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des progrès finalement dans le rendement énergétique des machines, pour prendre le critère central du fonctionnement des machines, eh bien, chaque fois qu'on fait du progrès dans le rendement énergétique des machines, normalement, ça devrait nous aider à faire avec moins d'énergie et moins de temps la même chose. Ça devrait nous aider à ralentir le système. Et c'est là où on voit vraiment une orientation, vous voyez, où la réhabilitation culturelle des objets techniques et de la technique en général devrait nous conduire aussi finalement à une réconciliation avec notre existence dans la nature.
Jean-Yves Château.
Je prolongerai vraiment ce qui vient d'être dit, et il faut donc sauter au fait que
Simondon assigne particulièrement à la culture thermodynamique, à l'époque thermodynamique de la technique. Donc les idées des défauts qui sont actuellement prêtés à la technique en général. Et au fond, d'une certaine manière, Gilbert Simondon à la fois essaie de comprendre, il y a des descriptions de la période thermodynamique, de la période donc de la technologie de la puissance, dans lesquelles il montre tous les dégâts que cela peut entraîner, et en particulier les révoltes des ouvriers, toutes sortes de choses. Donc il y a vraiment une prise en compte et même une analyse de ces choses-là. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, il considère que l'essence, l'excellence, disons, de la technique, celle qui est la technique de l'avenir, si possible, de manière optative, comme il dit, c'est une technologie qui n'est pas celle de la puissance. Il ne s'agit pas d'être plus fort que d'autres, même si la technique, mais cela il le condamne, souvent c'est la simple recherche de la puissance. La recherche en revanche de l'intelligence, de la compréhension, c'est cela qui est c'est vers quoi il va. Et je vous donne un exemple extrêmement simple pour vous montrer que ce n'est pas une sorte de technologie d'avenir simplement dont on parle de manière prophétique. La distinction qu'il fait entre un outil et un instrument est très révélatrice. Un outil, c'est un objet dont on se sert en lui appliquant un certain nombre de forces et pour obtenir un effet déterminé. Ça, il y a toute l'idée de la technique comme puissance. L'idée d'instrument, c'est l'idée d'un outil avec lequel on prend des informations sur ce que l'on est en train de travailler. Vous avez une technique de l'intelligence, de la manière de comprendre. Il prend un exemple qui est celui du marteau. Ce qui est intéressant, le marteau, ça paraît être quelque chose qui est brutal et puissant. Et il dit, oui, mais lorsqu'un plâtrier utilise le marteau pour tâter un plâtre, il va pas tout défoncer, il va regarder là où il y a des trous, là où ça tient, là où ça tient pas. Tous les outils, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent être des moyens de s'instruire de ce que l'on est en train de faire. Si on extrapole rapidement, on pourra dire que l'informatique la plus puissante, l'informatique la plus réticulée, est une informatique qui peut soit chercher à calculer, à gouverner, à maîtriser, soit à mieux comprendre en permanence ce que l'on est en train de faire. Encore faut-il être assez savant et assez soucieux.
Vincent Bontan, justement, qu'est-ce qui permet de penser en matière d'informatique, Simondon ?
Je vais rajouter une couche à ce qu'a dit Jean Château et ensuite ça débouchera sur ce qu'on m'avait demandé. Il y a pire que le paradigme de l'outil, il y a le paradigme de l'arme. La philosophie de Gilbert Simondon s'oppose finalement à un grand courant philosophique, notamment représenté dans les années 30 en Allemagne, qui vient de Oswald Spengler, et qui considère que le paradigme de la technique, c'est finalement l'arme. Et donc la technique, par essence, serait la recherche de la puissance, de l'asservissement. Or, Simondon dit qu'il s'oppose à cette philosophie autocratique, c'est-à-dire une philosophie où la technique est le moyen de faire des esclaves qui servent à réduire en esclavage ensuite les autres êtres humains. Et donc, il y a une espèce de volonté de réhabiliter au contraire la technique, non pas comme une force adverse à l'humanité, mais comme un ensemble d'êtres qui cohabitent avec nous et au milieu desquels nous devons nous comporter comme des chefs d'orchestre. C'est-à-dire nous devons donner finalement le tempo du régime technique. Et c'est là que les technologies de l'information finalement sont une chance pour changer de paradigme, quitter le paradigme de la puissance et de la recherche de puissance qui était liée aux technologies de l'énergie, pour passer à des technologies qui sont donc de recherche de l'organisation, de la régulation par l'information et les ordinateurs. Les réseaux d'ordinateurs sont une chance pour nous maintenant de fonctionner autrement. Et c'est malheureusement pas la direction qu'on observe, mais en réalité, Simondon peut au moins nous montrer le scandale qu'est le fonctionnement actuel du système technique et nous dire que rien n'empêcherait, je veux dire, dans le fond, nous avons tous les moyens technologiques pour nous organiser de façon démocratique et, en plus de ça, durable, on va dire, sur notre planète.
Bon, on l'a compris, Jean-Yves Château, l'une des singularités de Simondon, si on le compare surtout à certains philosophes allemands, je pense à Heidegger, mais pas seulement à lui, c'est d'être un penseur de la technique qui n'est pas un critique de la technique.
Oui, ce n'est pas un critique de principe, mais il ne faut pas négliger que si on lit le mode d'existence entièrement, on voit une analyse en particulier historique extrêmement instruite et qui prend précisément la différence des époques en compte, et que toutes les époques techniques ne sont pas sauvées. Il ne s'agit pas de faire non plus l'apologie de la technique. Il n'y a pas d'hostilité de principe, une sourde hostilité à l'égard de la technique. Mais je vous dis, les passages, par exemple, sur toute la période, tout le 19e siècle, toute la période dite thermodynamique, peut-on dire, il y a des études très précises et il y a une compréhension explicite de la manière dont les hommes, en général, étant donné l'histoire qui avait précédé, ont trouvé ça absolument insupportable et ont eu tendance à se révolter dans les jacqueries, dans toutes sortes de choses. Donc, il n'y a pas non plus une technophilie de principe, comme on l'accuse quelquefois, en disant « Ah bah oui, lui, tout ce qui est technique, c'est bon, et ça va être... » Pas du tout. C'est une analyse froide.
Vincent Bontemps.
En général, quand on pose des questions sur la valeur éthique de la technique ou l'éthique de la technique, on commence par considérer la technique comme quelque chose de neutre et seuls les usages décideraient si on fait un bon ou un mauvais usage. C'est très superficiel. Simondon n'adhère pas à ça et vous dit très simplement, il y a des techniques de destruction, il y a des techniques qui sont plus ou moins bonnes ou utiles les unes que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne reste pas dans une problématique de l'aliénation où la technique ferait quelque chose à l'humanité et on devrait la juger comme si c'était une force extérieure. Il dit, il faut comprendre que c'est de l'intelligence humaine, des gestes humains, la technique, et donc c'est intégré à notre rapport au monde, et en fait, ce qui est vraiment l'enjeu, c'est ce que nous faisons à la technique avant de lui faire quelque chose. Si nous traitons les objets techniques comme des esclaves, il ne faut pas s'étonner ensuite de se sentir nous-mêmes dans ce rapport-là, et parce que nous faisons système avec la technique, être réduit en esclavage. Si vous utilisez les machines, non pas pour les améliorations de rendement pour économiser l'énergie, mais pour aller au maximum de la consommation, c'est-à-dire au rendement maximum constamment. Si vous accélérez constamment le système, bien évidemment, vous vous retrouvez aliéné dans le système.
France Culture, Avoir raison avec Gilbert Simondon, par Guillaume Erner.
Je crois bien qu'il faudrait apporter un tempérament, qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal technicienne. Elle est mal technicienne parce qu'à chaque époque, il y a une espèce de pression faite par les utilisateurs pour que les producteurs présentent des objets ayant l'allure, ayant les caractéristiques externes de ceux qui existaient à la génération précédente. On pourrait appeler cela une hystérésis culturelle, une traînée culturelle, un retard culturel. Replacer historiquement l'objet technique, apprendre aux utilisateurs et aussi aux producteurs, qui quelquefois le méritent, qu'il faut être complètement dans le présent historique, ce serait la tâche culturelle la plus importante à laquelle je voudrais arriver.
Un commentaire, Jean-Yves Château.
Il me semble qu'on entend bien dans ce qui vient d'être dit que la technique, lorsqu'elle peut inquiéter, et c'est bien normal, elle ne peut pas être non plus sauvée de l'extérieur. Elle ne peut pas être sauvée indépendamment d'une culture technologique généralisée, aussi généralisée, dit-il, que la culture esthétique. Je rejoins ce que Vincent Bontemps disait très bien tout à l'heure. Il faut que tout le monde, que le maximum de gens dans une population ait une culture technique, en sorte que tout ce qui est technique soit compris et qu'il n'y ait pas une sorte de rapport comme magique à ces réalités-là. Mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de salut de l'extérieur. Celui qui voudrait sauver la technique, celui qui voudrait lui donner la bonne orientation, celui-là se comporterait comme il ne faut pas, selon Simondon, se comporter à l'égard de la technique, c'est-à-dire de l'extérieur, comme un maître qui dit la vérité, qui donne les bonnes orientations.
Mais alors, Vincent Bontemps, aujourd'hui, on a peur d'un certain nombre de choses en matière technique. On a peur, par exemple, que la technique remplace les humains. Qu'en aurait pensé Simondon ?
Il vous aurait accompagné, mais il vous aurait aidé à penser ça. Pas simplement avoir peur, mais il faut penser le phénomène. C'est-à-dire que il a lui-même très bien décrit la manière où l'invention de la machine industrielle a finalement expulsé l'individu humain du rôle central dans les opérations techniques. Et donc, il y a bien une aliénation, je veux dire, même dans les rapports physiques qu'ont les ouvriers actuellement dans ces usines ultra mécanisées. Je veux dire, c'est extrêmement violent quand on voit courir tous ces petits personnages en bleu autour des machines, des robots qui fonctionnent à toute vitesse, c'est extrêmement violent et ça l'a toujours été. Maintenant, ce qui est nouveau dans notre situation, c'est que des machines, des algorithmes remplacent ou vont remplacer les êtres humains dans des opérations de conception, dans des opérations intellectuelles. Nous sommes en train de perdre la centralité aussi dans ces opérations-là. Alors, dans ce dessaisissement, il y a quelque chose à réinventer. Et comme je vous disais, le paradigme que propose Gilbert Simondon, c'est celui de se considérer comme un chef d'orchestre. C'est-à-dire, l'être humain a notamment à reprendre le contrôle, je veux dire, toute la société, la culture en général, du tempo avec lequel fonctionne le système technique. S'il ne veut pas se trouver lui-même réduit en esclavage, il doit d'abord réhabiliter le rôle de la machine, savoir que la machine est ce qui doit lui servir à vivre plus longtemps sur cette planète, à diminuer sa consommation d'énergie, à augmenter l'information du monde, son organisation. Et deuxièmement, il doit prendre contrôle du rythme auquel nous agissons. On doit ralentir. Le progrès, bizarrement, chez Simondon, c'est quelque chose qui va vers le ralentissement. Il faut ralentir la consommation d'énergie à tout prix.
Thierry Chateau.
Oui, c'est ça. Que la technique dépossède de plus en plus l'individu humain, travailleur. Bon, ça c'est un fait, et on n'y peut rien, en tout cas on n'y peut plus rien, ça fait longtemps que la chose est passée. Gilbert Simondon dit, il faut donc que la technique, car elle n'est pas que ce rapport du travailleur qui s'épuise, qui épuise son intelligence, sa force physique, bon, à essayer de vivre de jour en jour, tel que Marx l'a décrit à une époque. Non, il faut que l'homme qui s'occupe de technique, le travailleur industriel, devient de plus en plus un homme des ensembles, qu'il contrôle la technique, quelle que soit la manière à laquelle on ne peut pas grand-chose. Le progrès technique fait que quantité de tâches peuvent être réalisées maintenant par des robots, par des systèmes algorithmiques de nos jours, etc. Il faut donc simplement, pour que le travailleur soit pas soit au chômage, privé de tout travail, soit extraordinairement malheureux, essayant de lutter avec des machines, avec des systèmes qui font mieux que lui et plus efficacement et pour moins cher ce qu'il fait, il faut qu'il devienne celui qui contrôle, qui organise, qui accompagne, qui soit le il dit quelquefois le psychologue, le sociologue, c'est une image, des machines. Mais enfin, il y a quelque chose comme ça, l'accompagnateur. Il faut qu'il soit l'homme des ensembles, le chef d'orchestre, c'est une bonne image également.
Un point là-dessus, peut-être, sur le rôle de l'être humain. Parce que, finalement, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie de Simondon est un humanisme qui se soucie de technologie, alors que, bien souvent, les deux ne vont pas de pair. Ou alors, il y a des anti-humanismes qui sont anti-technicistes. Je pense à nouveau à Heidegger. Eh bien, sans bon temps.
Oui, mon ami Jean-Yves Barthélémy dit souvent que c'est un humanisme difficile. Il reprend cette expression de Simondon pour dire que le projet de Simondon, c'est de réintégrer dans l'humanisme justement la technique comme étant notre moyen de produire aussi cette culture par laquelle nous avons une chance de réguler notre existence collective. Et donc, il y a quelque chose qui est en effet... au-delà de tout simplement ce pour ou contre la technique, ce match entre la technocritique et la technophobie d'un côté et la technophilie, la technolatrie de l'autre, qui est finalement illusoire, parce qu'on nous demande constamment de prendre position pour ou contre des innovations, des choses comme ça. Ce n'est pas ça la question. La question est de savoir comment nous allons pouvoir réorienter l'ensemble du système. Et d'ailleurs, des techniques anciennes ont peut-être plus de valeur maintenant dans certains contextes que des techniques nouvelles. Simondon n'est pas est quelqu'un qui pense justement ce désajustement qu'il peut y avoir entre les machines passives, c'est-à-dire les machines architecturales, les réseaux de circulation physique, et puis ensuite les réseaux d'alimentation énergétique, les réseaux de diffusion d'informations. Il y a une cohérence que nous avons à rechercher dans notre monde qui n'est pas celle de la course en avant. Le progrès, c'est aussi de regarder ce que nous avons mis en réserve et de revenir en arrière sur certaines étapes pour orienter l'ensemble du système vers quelque chose que nous souhaitons, ce qu'il appelle l'optatif. L'optatif, c'est un genre du grec, en fait, qui est entre l'impératif et le conditionnel. Si je vous dis, vous auriez pu faire un bon voyage si jamais, j'utilise le conditionnel, je parle d'une possibilité, mais je mets pas de choix. Si je dis faites bon voyage, je le souhaite, mais je dis pas que c'est possible. Mais en grec, il y avait moyen de dire quelque chose qui est à la fois la possibilité et le désir en même temps, le futur désirable. Et on peut le rendre en français par un usage du subjonctif, on peut dire, puisses-tu faire bon voyage? Eh bien, si Simondon souhaite que nous investissions la technique et notre devenir de quelque chose comme ça, que nous visions un futur désirable et que nous dirigions vers ça.
Jean-Yves Chateau, pour les auditeurs qui auraient envie d'en savoir plus sur Simondon, alors il y a bien entendu votre vocabulaire de Gilbert Simondon publié aux éditions Ellipse. Pour le reste, comment entrer dans cette philosophie? Comment faire?
Il me semble qu'effectivement la lecture au moins des deux introductions, de ces deux ouvrages que lui-même il a publiés, puisqu'il n'a publié que ces deux ouvrages qui étaient ses deux thèses. C'est quelque chose d'important. Donc ça fait 18 pages pour l'ouvrage sur l'individuation, et ça fait une dizaine de pages à peine, même pas, pour ce qui est du mode d'existence des objets techniques. Je pense, moi, qu'il y a un autre ouvrage qui peut être très intéressant, qui est le cours qu'il a fait sur l'imagination. Car il y a tout dedans. C'était son cours de psychologie, c'était le cours annuel de psychologie, fait pour les philosophes. Moi, j'ai eu la chance d'être la dernière année où les philosophes devaient avoir un certificat de psychologie générale. Et c'était Simondon qui était le professeur et qui organisait la chose. Donc, c'était un cours de psychologie générale, mais c'était un cours de philosophie en même temps, un cours de philosophie qui parlait de la philosophie la plus ancienne. On apprenait tout dans ce cours. Et en plus, qui donne une théorie d'une nouveauté absolument décoiffante sur l'imagination, puisque il y a là-dedans une critique extrêmement sévère et même radical, il ne reste plus rien, de Sartre, qui était un philosophe tellement important, tellement célèbre, tellement adulé à l'époque, et qui avait brillé en particulier, juste avant la guerre, en écrivant deux ouvrages, l'un sur l'imagination, dont il ne reste quasiment plus rien, alors que Simondon ne polémique jamais, donc il est très poli, il dit que l'ouvrage est très intéressant, de Monsieur Sartre et tout, mais en fait, à la fin, c'est très dur. Alors, par ailleurs, dans cet ouvrage, c'est l'imagination dans tous les domaines, y compris dans le domaine technique, et on découvre à cette occasion que d'ailleurs, toutes les images ont tendance à devenir des objets, et dans le meilleur des cas, des objets techniques qui fonctionnent. Donc on a au fond, c'est un des ouvrages les mieux écrits, parce que c'est pour les étudiants, enfin c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas besoin, le mode existence, je comprends, c'est quand même beaucoup plus aride à lire. Tandis que là, au fond, on a une bonne image, on a une bonne idée assez courte de l'ensemble.
Vincent Bontemps, la postérité de Simondon, aujourd'hui, il est de plus en plus connu, je l'ai dit en introduction, et qu'est-ce qui peut aujourd'hui se situer dans le sillage de sa pensée?
Deux choses. D'une part, il y a des œuvres philosophiques importantes, ne serait-ce que pour citer donc celle de Bernard Stiegler ou celle de Barthélemy, qui s'inspirent très fortement de Gilbert Simondon. Donc il a une postérité philosophique et qui ne cesse de croître. Voilà. Deuxièmement, il y a un usage non académique de Simondon. J'aurais voulu en dire davantage, mais il a été lu par énormément de gens qui n'étaient pas des philosophes. Et donc, il y a des gens qui sont des ingénieurs, des designers, des informaticiens, des architectes, des sociologues, plein de gens qui se sont emparés de Simondon. Lire Simondon, vous prendrez plaisir à lire Simondon à partir du moment où vous vous rendrez compte que ça augmente votre puissance d'agir, de penser et d'agir. Pour donner un exemple. Le livre sur l'imagination. Donc la thèse principale, c'est alors que Sartre pense que l'image est quelque chose qui dépend de la conscience imageante, eh bien non, pas du tout. L'image a plutôt une existence assez indépendante. Ça vit quasiment comme un organisme en symbiose avec l'être vivant. Eh bien, moi j'ai pu voir que on peut prolonger cette pensée. Maintenant, comment fait-on des images? Ben, avec des machines. C'est-à-dire le cycle de l'image qu'il décrit avant la perception, pendant la perception, après la perception, dans la mémoire, puis réinventé. Eh bien, c'est un cycle qui maintenant est accompli aussi à l'intérieur de machines qui créent pour nous des images, qui les traitent, qui les stockent, qui ensuite en tirent des informations. Eh bien, ça prouve que la pensée de Simondon, ce n'est pas simplement une œuvre classique, c'est surtout quelque chose qui nous invite à prolonger son effort et qui nous fournit de merveilleux schèmes opératoires pour penser le présent et le futur.
Jean-Yves Château, merci. Je rappelle votre ouvrage « Le vocabulaire de Gilbert Simondon » publié aux éditions Ellipse. Vincent Bontemps, cet ouvrage collectif issu d'un colloque de Cerisy, « Gilbert Simondon ou l'invention du futur » aux éditions Klingsic. Ainsi se termine Avoir raison avec Gilbert Simondon, avec à la technique Adelino Mello, Alexandre Fougeron à la réalisation et Alexandre Joao Simao à la préparation.